Cette année, j'ai l'honneur d'être artiste émergente soutenue par Radio Grille Ouverte. Alors, tout au long de cet été, je vais vous emmener avec moi en répète. Oh putain! En concert. En tournage.
On va la tourner. Silence s'il vous plaît. Moteur ça tourne. C'est parti.
3, 2, 1.
Faire de la musique avec les copains.
J'aurais bien fait un morceau avec toi, si ça te disait bien. Un petit Johnny Cash, Folsom Prison Blues.
Ah ouais, il faut que je réécoute, je m'en rappelle pas du tout.
When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with gun.
Ouais, c'est le plus connu, mais il est trop cool ce morceau.
Ouais, du coup, oui, je l'aurais vite trouvé. C'est celui-là, ouais, d'accord. Ouais.
Dans la création d'une nouvelle identité visuelle.
Ok, moi j'ai tout ce qu'il faut. À partir de ça, eh ben, je vais commencer à faire des recherches graphiques.
Ouais.
Je vais, et en même temps que je fais ces recherches graphiques, ben, je vais tout écouter, tout ce que tu fais.
Ouais.
Je vais me mettre dans la carapace.
Bref, je vais vous embarquer dans cet été un peu spécial et on va découvrir ensemble de quoi seront faits ces 2 mois pas comme les autres. L'Empire, c'est mon nom de scène. Avant, c'était Syl, mais j'ai changé de nom cet été. Je suis guitariste-chanteuse et j'ai monté le projet en 2013 avec l'aide des copains de Jolive. Et depuis, j'écume les bars, festivals ou salles qui ont accroché avec ma musique. J'ai commencé en solo, puis monté la version quatuor rock, vécu des trop bonnes choses, arrêté le groupe pour tenter une formule en duo avec un autre guitariste. On s'est bien marré, puis j'ai eu besoin d'autres horizons avant de revenir à mes premières amours, le solo. Épisode 5. Pour le meilleur et pour l'Empire, sur Radio Grille Ouverte 88.2. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de l'émission Pour le meilleur et pour l'Empire. Aujourd'hui, je ne vais pas vous la faire très longue en intro parce qu'on a une interview qui est assez conséquent. Il s'agit de l'interview de Alix que vous avez déjà rencontré pour ses talents de vidéaste et qu'on va découvrir aujourd'hui pour ses talents de photographe. Car effectivement, c'est elle qui m'a fait les magnifiques photos qui me représentent désormais.
Bonjour Alix.
Bonjour Cécile.
Ouais, bonjour Cécile.
La dernière fois qu'on t'a vu, c'était pour l'interview concernant le projet à la Maison Relais, le projet de réalisation de film. Et on t'a laissé et t'allais commencer le tournage. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé ou est-ce que ce projet en est?
Alors ce projet est aujourd'hui terminé. Il est en attente de mixage et d'étalonnage, c'est-à-dire que on est vraiment au dernier réglage, des derniers détails. Mais ça s'est extrêmement bien passé. Bon, le tout premier tournage, on va dire que c'était un peu notre galop d'essai. On avait besoin d'une petite mise en forme, donc ça a été un petit peu compliqué. Mais ensuite, on a tout rectifié et on a eu beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de rire. Et je suis extrêmement fière du travail que les résidents ont accompli parce que c'est vraiment un très joli film. On sent qu'on a vraiment, vraiment beaucoup pris de plaisir. Et comme je t'avais dit la dernière fois, c'est l'essentiel de ce projet.
Très bien. Eh bien, nous sommes ravis de l'apprendre. Alors là, on est dans un cadre super, super difficile pour travailler. En plus, on est dimanche, c'est l'horreur, quoi. On est à la rivière. Et c'est trop bien, vous entendez d'ailleurs les cigales derrière nous. Et on n'est pas du tout là pour parler de films, on est là pour parler de photos aujourd'hui. Parce que, comme vous l'avez entendu la semaine dernière, j'ai changé de nom. Et avec mon changement de nom, donc j'ai souhaité mettre en place une nouvelle identité visuelle et c'est Alix qui a fait les photos. Si vous avez fait un tour sur mes réseaux sociaux, vous avez vu qu'elles sont... Enfin, pour l'instant, il n'y en a qu'une qui est sortie. Il y en a une autre qui sortira là, petit à petit sur Instagram. Vous avez vu qu'elle est super jolie et on est là pour déjà interviewer Alix et puis après l'interview, on vous racontera un peu comment ça s'est passé. Voilà. Comment est-ce que tu en es venue à la photo ?
Alors, la photo, j'ai commencé à la pratiquer à la première année d'école de cinéma, c'est-à-dire quand j'avais 19 ans. Il y avait un labo photo et on m'a formé à la photo argentique. Et j'ai vraiment adoré le côté artisanal du fait que je pouvais faire mes photos, développer ma pellicule, faire mes tirages, scanner ensuite et puis tout retravailler. Et depuis, j'ai jamais arrêté. C'est vraiment quelque chose que je fais tout le temps. Alors après, avec plein de formats différents. Là, en ce moment, j'ai un délire sur le jetable. Et voilà, j'ai fait beaucoup de photos, un peu documentaires, beaucoup de tests, beaucoup de choses comme ça. Et puis il y a quelques années, en 2015, je me suis beaucoup intéressée à la mise en scène photo, donc à créer un univers avec des modèles, et donc avec une ambiance lumineuse, avec un décor particulier, des costumes particuliers. J'ai beaucoup travaillé sur des allégories. Et donc les modèles avec lesquels je travaille ne sont pas en général des modèles professionnels, ce sont des filles que je rencontre qui deviennent des amies, parce que je suis très vite fascinée en fait par les visages, puis ce qui peut émaner d'une personne en fait. Donc je travaille comme ça en fait, au feeling, et il y a beaucoup de discussions avec la... Donc il se trouve que c'est 90% des filles, et beaucoup de discussions avec la personne que je photographie, et on détermine un univers ensuite toutes les deux.
C'est marrant parce que j'étais persuadée que tu avais commencé en fait par le cinéma et que
Non, que
c'était l'inverse, que tu avais commencé en étant passionnée de photo et qu'après tu en étais venue au cinéma.
Non,
en fait c'est un peu l'inverse.
En fait j'ai eu mon premier caméscope à 16 ans, donc il n'y avait pas beaucoup d'amis à moi qui voulaient être filmés, donc en fait j'ai commencé par me filmer moi. Bizarrement, je mettais ma caméra dans un coin de ma chambre et je me filmais en train de danser. Mais pas du tout dans un trip narcissique, en fait, c'était vraiment aussi qu'est-ce que je représente, de voir de dos aussi, c'était vraiment une recherche, quoi. Qui tu es, qu'est-ce que tu émanes. Donc j'ai beaucoup bidouillé avec cette caméra. Et puis moi, je voulais faire la réalisation, je voulais raconter des histoires. Et donc j'ai fait cette école d'audiovisuel. Et en fait, pendant cette école d'audiovisuel, vraiment la première année, entre comment apprendre à filmer et raconter des histoires, j'ai vraiment aussi le médium photographique, quoi, qui est beaucoup plus léger. Moi, j'ai pendant très 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 longtemps, je pense de mes 12 à 18 ans, je me suis beaucoup réfugiée dans des mondes, que ce soit le cinéma, le livre. Donc ces mondes m'ont aidée à surmonter des moments compliqués de ma vie et à m'en créer d'autres. Et j'avais vraiment aussi cette envie d'embarquer les gens dans un univers, de leur raconter des histoires, de les faire réfléchir et... voilà, mais sans que ce soit quelque chose d'intellectuel, etc. C'est vraiment... j'ai des images qui se créent dans ma tête. Et la mise en scène photo, voilà, c'est que j'ai un flash et j'ai une ambiance, un truc que j'ai envie de raconter. Et on le met en place, comme ça, avec trois bouts de ficelle et puis beaucoup, beaucoup d'énergie et d'envie, quoi.
Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter quelle est ta formation ?
J'ai fait une école d'audiovisuel qui s'appelle l'ENSAV à Toulouse. Il y a trois écoles publiques en France d'audiovisuel, c'est la FEMIS, Louis Lumière et cette école à Toulouse. Et en fait, la particularité de cette école, c'est une école qui ne formate pas du tout en fait, ses étudiants. Tu arrives avec ta personnalité et le but, c'est qu'ils t'aident en fait, à exploiter cette personnalité et à vraiment faire des projets que toi seul en fait peux faire, quoi. C'est ton film ne ressemble pas au film de quelqu'un d'autre, et du coup c'est beaucoup dans l'expérimentation. Donc pendant ces 4-5 ans d'études, j'ai vraiment beaucoup beaucoup expérimenté. Je suis allée chercher beaucoup beaucoup de choses au fond, beaucoup de thérapie par les films, etc. Mais c'est vraiment ce que j'ai aimé, c'est que et puis c'est aussi une école qui avait pas beaucoup de moyens, donc on a appris à faire beaucoup de choses par nous-mêmes, à réparer des caméras, à bidouiller. Et en fait la bidouille, moi, elle vient de là en fait. On rigolait parce qu'on disait c'est une école, le slogan c'était des ingénieurs ingénieux. Forcément quand les caméras sont pétées, j'ai tout les réparer. Mais ça donne beaucoup de ressources en fait. Et c'est hyper intéressant. Et la plupart des choses que je mets en place aujourd'hui dans mon travail, quand j'ai pas de budget ou quand c'est vraiment voilà, c'est ce que j'ai appris là-bas. Tu te débrouilles avec ce que t'as et tu fais au mieux. Et ça marche.
Et après, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont pas une formation que t'as suivie, mais quand tu t'es rendu compte qu'elles t'ont formé?
En 2015, je me suis réintéressée, vraiment, parce que donc j'étais devenue à la sortie de cette école, voilà. Donc, je voulais faire la réalisation. Au bout de la deuxième année, j'ai choisi de faire une option image parce que la réalité du métier est telle que en tant que réalisateur, c'est très compliqué de trouver du travail. Par contre, en tant que technicien, c'est beaucoup plus facile et rien ne t'empêche ensuite de faire de la réalisation. Donc en fait, je me suis mis après beaucoup à... J'étais caméraman, assistante caméra. J'ai bossé à Paris sur pas mal de plateaux télé, des choses comme ça. Et puis après, j'ai fait un petit burn-out, je suis venue dans le sud. Et je me suis beaucoup posé la question de pourquoi j'ai fait de l'image à la base. Et j'ai fait de l'image à la base parce que c'est quelque chose qui a un pouvoir énorme, à mon sens, qui a double tranchant. Et c'est aussi une façon, en fait, de mettre en lumière des choses et des gens dont on ne parle pas, qu'on ne voit pas. Et j'ai eu envie de me positionner en tant que, qu'intermédiaire, en fait, avec cet outil de la caméra. Et donc, je me suis recentrée sur le photojournalisme, en fait, vraiment sur le documentaire. Et j'ai appris à travailler toute seule et à construire des sujets documentaires en son et en images, sous un format de ce qu'on appelle aujourd'hui les films photographiques ou diaporama sonore. Mais... Et j'ai fait une petite formation ensuite à Paris de 10 jours avec un monsieur qui s'appelle Lorenzo Virgili, qui est un mec incroyable et qui m'a aidé en fait à développer tout ce que j'avais en moi. Et en fait, la mise en scène, c'est lui qui m'a poussé à en faire. J'étais dans cette formation, j'apprenais vraiment beaucoup de choses, c'était hyper intéressant. Et parce que la photo du documentaire, c'est compliqué. Tu vas dans la rue et puis t'as pas de... Voilà, tu vas direct aux gens, faut pas être timide, faut savoir ce que tu veux faire, choisir un angle, etc. Moi, pendant cette période, j'étais hantée par des images et, que j'avais vécues quand j'étais plus jeune, des choses un peu compliquées. Puis, fin de la formation, je suis allée le voir et je lui ai dit, bon, ben voilà, j'ai ça dans la tête. Est-ce que, à ton avis, c'est une bonne idée de l'exorciser en mettant en image? Il m'a dit, ben oui, vas-y, à fond, de toute façon, tu vas découvrir... Soit ça va marcher et puis ça sera cool, soit ça fera un flop, mais au moins tu l'auras fait. Et en fait, ça a été vraiment top, quoi. J'ai commencé toute une série photo, là, qui s'appelle Trashumancia, de 2015 à 2019. Et en fait, ça a été vraiment une découverte. Et en fait, je travaille maintenant en parallèle. Mes projets personnels sont souvent des mises en scène aujourd'hui. Et je fais beaucoup de commandes en documentaire. Mais voilà, ça a été vraiment une toute petite formation, mais qui a vraiment été... Ce gars-là a vraiment été un déclencheur. Ouais. Il m'a fait prendre conscience que, ben, de toute façon, quand on a envie d'y aller, on y va, quoi. Ouais. Et puis, se fier à son instinct, ce que je fais beaucoup, beaucoup aujourd'hui, en fait. Je ne suis pas du tout une très bonne technicienne, je suis quelqu'un qui travaille vraiment à l'instinct, en fait. Je sens les choses et je vais dans ce sens-là.
Enfin, après, pas une très bonne technicienne, mais tu as quand même la formation et tout.
Oui, ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas du tout...
C'est pas ta spécialité.
Je ne suis pas la nana qui va dire « Ouais, mon appareil, il a 12 milliards de pixels, il fait ci, il fait ça, ouais, c'est génial, moi, je m'en fous un petit peu, quoi. » Au contraire, moi, j'aime bien les trucs un peu old school, je te parlais du jetable. Moi, dès qu'on peut s'affranchir un petit peu de la technique, c'est cool, mais c'est aussi ce que je fais dans les ateliers à la Maison Relais, c'est vulgariser toute la technique, quoi.
Et j'allais te demander, du coup, ma prochaine question, c'était est-ce que tu as une spécialité? On peut dire que, du coup, ta spécialité, c'est...
En fait, non, je ne vais pas te dire que j'ai une spécialité. Okay. J'aime
bien. J'ai laissé ma question sur ce point parce que
Il y a beaucoup de choses que j'aime. Je me suis beaucoup diversifiée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis que je suis réalisatrice et photographe.
Ouais.
Parce que, bon, voilà, la photo, c'est mon gagne-pain aussi. Mais la réalisation, c'est une façon globale, en fait, de créer des projets. Et la mise en scène en photo, bah, c'est la réalisation, puisque tu fais un peu tout. Tu crées une histoire, tu crées le décor, tu mets en scène le personnage, tu choisis les costumes, tu choisis la lumière. Bon, il n'y a que la musique, le son qui est inexistant, mais...
Oui.
Donc, non, enfin, voilà, si j'ai quelque chose... Voilà, si y a un truc qui me tient à cœur, c'est le travail de l'humain. Voilà, je ne suis pas une photographe de paysage du tout. Bah, c'est vraiment l'humain qui m'intéresse... C'est peut-être ça, je suis spécialisée dans raconter des histoires sur les humains, je sais pas.
Et alors justement, transition, génial. Quels sont les sujets que tu traites? Est-ce qu'il y a une ligne, un fil rouge en fait dans tes photos ou est-ce que pas?
Si, ça s'ouvre encore aujourd'hui, mais j'ai pas mal travaillé autour de la religion. J'ai fait tout un tas de reportages sur les semaines saintes en Andalousie parce que c'est un sujet qui me fascine, qui me fait à la fois très peur et que j'essaye de comprendre. Donc voilà, il y a tout un travail sur l'iconographie religieuse qui a eu lieu un temps. J'ai aussi fait un boulot à Lourdes sur toutes les dérives de l'image de la Vierge que tu retrouves sur des briquets, sur des serviettes de bain, sur des radios réveils, sur n'importe quoi. C'est formidable, c'est fascinant. Et après, c'est vraiment après des sujets qui sont plus durs, c'est l'exclusion sociale, la folie, le rapport à la mort. Ma mise en scène, c'est ça en fait, Trashumancia, ça raconte le rapport qu'on a à la mort, à la maladie. Donc c'est un peu compliqué, mes sujets sont pas hyper légers. C'est peut-être pour ça qu'en mise en scène, en réalisation avec les gens de la Maison Relais, je fais des choses très drôles et très légères aussi. Mais mes questionnements, moi, sont assez lourds. Mais j'essaye de, voilà, dans l'entrage humain, je touche des sujets qui sont très compliqués, mais j'ai bossé avec beaucoup d'esthétisme, en fait. Beaucoup d'esthétisme et beaucoup. J'essaye de pas être. Je veux pas choquer les gens, en fait. Je veux poser des questions. Je me pose des questions et j'essaye d'en poser aux gens à travers ça. Donc l'humain, le social, la religion et la mort. Voilà, c'est très très gay.
Ouais.
Ce qui m'énerve, moi, c'est que c'est un peu tabou, quoi. Et j'ai été explorée dans des sociétés différentes, notamment au Mexique. Le rapport à la mort, il n'est pas du tout tabou. C'est quelque chose qui fait partie de leur vie, c'est quelque chose qu'ils célèbrent. Dans certaines autres ethnies, c'est la même. Nous, ici, du moins en Europe, on est quand même... pas de dialogue par rapport à ça.
Non.
Et puis pareil, le suicide, très très compliqué.
Ah ouais.
On n'en parle pas. Alors comment on fait ? Comment on fait pour évoquer ces sujets ? Tout de suite, les gens, ils font non, je veux pas. Donc moi, j'ai essayé d'aborder ça avec des images très très esthétiques. En fait, où l'idée, c'était que dans une salle d'expo, tu fasses ah ouais, c'est beau, attends, je m'approche. Et quand tu t'approches, tu fais attends, voilà, de quoi on parle ? Ah ouais, c'est pas si beau que ça. Mais
ah ouais.
Que du coup, ça soit pas quelque chose de rebutant. C'est des pistes de recherche. Après, il y a tout s'ouvre. Tout s'ouvre. Là, je suis en train de m'intéresser vraiment au rapport aussi, toujours dans le social, mais sur les comment est-ce que les détenus en prison peuvent se réhabiliter. Donc là, j'ai découvert tout un programme qu'il y a aux États-Unis sur le dressage des Mustangs. C'est des anciens, donc des détenus qui dressent des Mustangs. Et je trouve ça fascinant, un mec sauvage, un animal sauvage, qu'est-ce qui se passe entre deux. Voilà, là, en ce moment, je suis en train de réfléchir un peu à des thématiques comme ça, de reportage aussi.
Quelle est ta plus grande fierté en tant que photographe ?
Je crois que ma plus grande fierté en tant que photographe, c'est j'ai fait un workshop à Sète il y a quelques années avec un photographe qui s'appelle Denis Dailleux.
C'est quoi un workshop ?
C'est une session de travail de 3 jours, c'est un stage autour d'une thématique, là c'était le portrait. Donc on a été invités à montrer nos travaux et j'ai montré ce projet de Trash Humentia et moi j'ai vraiment confiance en moi, je fais les choses comme je te dis à l'instinct, je tâtonne, des fois je sais pas pourquoi je fais un truc, je le fais quand même. Puis ce jour-là, donc on a regardé mes images avec Denis Dailleux et Denis Dailleux me dit « mais qu'est-ce que tu fous dans ce workshop ? T'as pas besoin de faire un workshop portrait, tu gères ton portrait ?»
Oh.
J'étais là « bon ?» Et il m'a dit « ton travail est très fort, ton travail est vraiment très intéressant, il faut que tu persévères, il faut que tu continues parce qu'il y a vraiment quelque chose là-dedans. » En fait, c'était la première fois que j'étais... que j'avais une espèce de validation.
Ouais, la validation des pairs. Voilà,
une validation des pairs, quelqu'un qui dont c'est le travail en plus que je respecte beaucoup et qui me dit que non, je me plante pas, qu'il y a un vrai truc à faire. Là, ça a été... je suis rentrée de ce workshop, j'ai appelé ma mère, j'étais en pleurs, quoi. Je lui ai fait « maman, je crois qu'il faut que je continue, il y a un truc à faire, il faut que je continue à m'écouter en fait. » Et ça m'a vachement donné confiance en moi, ça m'a aidé à m'écouter. Et je crois que pour le moment, c'est ça ma plus grande fierté. Parce qu'après, en tant que photographe, j'ai encore tellement de choses à prouver, tellement de choses à faire. Peut-être que le jour où j'aurai une vraie expo, là je serai fière aussi, ça va venir.
J'en suis sûre. Quels sont tes projets et tes envies ?
Donc, comme je t'ai dit, je travaille sur plusieurs médiums différents. J'ai vraiment, vraiment envie de continuer là, les ateliers. J'ai envie d'ouvrir, j'ai envie de pouvoir travailler. J'aimerais pouvoir travailler éventuellement en milieu carcéral, milieu psychiatrique. Et j'aimerais vraiment bosser avec des ados.
Ouais.
Il y a une énergie avec des ados que je trouve fascinante. Et j'ai envie de pouvoir exploiter ça, quoi. Donc là, j'ai vraiment envie de continuer ces ateliers-là. Et je suis en train de préparer donc, un reportage, comme je te disais là tout à l'heure, sur le lien voilà, entre l'homme, le cheval et puis comment est-ce que ça peut s'équilibrer. Donc, c'est tout frais, hein. Là je suis en train vraiment de commencer à regarder ce que je peux faire. Je vais aller en France rencontrer des gens qui font des thérapies comme ça. Voilà, je vais essayer de préparer un petit peu tout ça.
Comment travailles-tu dans les cas comme le mien où une personne te contacte car elle a besoin de support visuel pour illustrer un projet artistique ?
Bon, bah alors là, j'ai envie de te dire que c'était la première fois que je travaillais comme ça en collaboration avec une artiste.
Je suis honorée.
C'était super cool en plus parce que tu fais de la musique, je fais de l'image. Donc pour moi, ouais. Ça marche très bien. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout de suite voulu écouter tes morceaux. Donc j'ai écouté en boucle, en boucle, en boucle. J'ai voulu m'inspirer de ton univers. Et puis après, en fait, je me suis mis à t'observer beaucoup sans que tu t'en rendes compte.
Et c'est le moment où ça devient flippant.
Non, voilà, souvent je dis aux gens, des fois je les fixe, je leur dis non, t'inquiète pas, je suis pas pervers, je suis pas psychopathe, je te regarde juste parce que c'est mon métier et j'ai envie de voir. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu comment tu te positionnais, ton rapport à ton corps, etc. Puis après, il y a aussi le fait qu'on se connaissait d'avant, qu'on s'est connus dans un cadre très particulier, que j'ai vu aussi deux faces de ta personnalité, la Cécile et l'Empire. Et ensuite, ça a été beaucoup de questions, beaucoup de dialogues toutes les deux. Je t'ai posé beaucoup de questions. Qu'est-ce que tu as envie de faire ressentir? Quels sont les éléments qui te plaisent? Les couleurs, les univers, tout ça. C'est donc beaucoup, beaucoup de dialogue, en fait. Ouais. Énormément de dialogue. Et vu que ça se construit à deux, je t'ai pas dit « Bon, on fait ci, on fait ça. »
Oui, oui.
Voilà.
Non, c'est clair.
C'était vraiment une communion. Une espèce de communion, un peu, entre nos deux univers, nos deux sensibilités. Moi, c'est compliqué. J'ai du mal à photographier les gens que j'aime pas, hein, donc... Donc souvent ça marche comme ça. Et le fait qu'on se rencontre aussi, qu'on respecte beaucoup nos univers, nos travaux, a créé aussi tout un monde de douceur. Et mon regard, il s'est vachement attendri. Et on a créé une intimité. En fait,
les photos, je trouve.
C'est en créant une intimité, en fait, qu'on a fait quelque chose.
Pour le meilleur et pour l'Empire, sur Radio Grille Ouverte, 88.2. On a tenté avec Alix de vous raconter comment s'était déroulé le shooting, mais écrasé par la chaleur et mouligasse parce qu'on était dimanche, ça rend pas très bien. Je vais donc vous expliquer tout ça. Ça a commencé il y a presque un an, à force de traîner ensemble avec Alix et de découvrir nos univers artistiques respectifs, on a très vite eu envie de travailler ensemble. On avait prévu de faire une chouette photo dans un bel endroit au printemps, mais le printemps 2020, tu connais, on est resté enfermé chez nous, blablabla. On sort de chez nous et là, Alix devait commencer le tournage du film de la Maison Relais, puis le montage, donc on remet la photo à plus tard. Entre temps, je pète un plomb pendant le confinement, je vois mon été se vider de tout concert et festival, donc de tout sens. Je commence à flipper de passer un été déprimé et flash, je vais changer de nom, c'est le moment. Bon, ça, t'as bien compris, on en a parlé comme il faut la semaine dernière. J'en parle pas mal avec Alix, on change notre fusil d'épaule parce que le printemps était passé et que la végétation avait commencé à cramer. J'avais quand même envie d'une photo en extérieur, je sais pas pourquoi, parce que j'avais pas d'idée d'intérieur super cool où aller. Alix réfléchit à ce que lui évoque le vert luisant, et pour elle, vert luisant égale fin de journée. Et là, à force de discuter, boire des coups, faire des repas, aller à la rivière, on en arrive à une envie de photo entre chien et loup. C'est le moment de la journée, pas les animaux. Trop compliqué de faire venir un loup juste pour une photo. Donc on se dit bim, coucher de soleil, jolie lumière. En discutant, on se dit aussi, et si on mettait un intérieur en extérieur, c'est-à-dire un canapé, des lampes, comme si c'était un salon, mais en extérieur. On est contente, on a une idée qui nous plaît bien. J'avais déjà calé la date de changement de nom, je voulais absolument que ce soit le 27 juillet, le jour de mes 30 ans. On était une semaine avant, donc un peu juste en temps. On a calé une journée, la seule qui était possible parce que les autres jours la pluie était prévue. Et là, devine quoi? Le matin de la photo, je me lève et... Est-ce que je vois pas que le soleil se cache derrière des putains de nuages? J'étais furax. J'essaie de me calmer, j'appelle toute ma famille qui habite là où on allait faire la photo au cas où, entre Pompignan et Alès, les nuages soient plus là. Puis, j'appelle Alix. Alix, elle, de son côté, dans son cœur, c'était pas un petit voilage gris qui cachait le soleil. C'était un orage, mon gars. Même les convictions capitalistes de Bernard Arnault auraient été arrachées de lui s'il avait été là. Elle était dans une journée de ouf dans sa vie, et elle avait besoin de prendre du temps pour elle. Mais en même temps, elle savait que faire de la photo, c'était ce qui lui permettrait de retrouver le mojo. Donc on se dit tant pis que tant pax, on reste sur aujourd'hui, on verra bien, mais on se donne rendez-vous un peu plus tard. Je prends donc mon temps pour faire mes affaires, ce qui m'a pas empêché d'en oublier la moitié, customiser ma robe, chercher des idées de maquillage, pendant qu'Alix achève son mental breakdown et on se retrouve dans l'après-midi. Sa cousine était en vacances chez elle, donc on l'a embarquée avec nous, et comme j'y suis, merci Valentine pour ton aide précieuse. On va sur le lieu, les nuages tapent encore à l'incruste mais ils sont plus fins, on commence à installer, je me rends compte que j'ai oublié de prendre un pied de projecteur, Alix se rend compte qu'elle a pris sa cousine qui pourra tenir le projecteur. Bref, c'était une blague un peu limite, mais j'avais très bien envie de la faire. Je me maquille, et au moment de la touche finale du rouge à lèvres, genre vraiment la fin, bim! Un rayon de soleil. Et on a commencé le shooting comme ça. Au début, on est allé profiter de ce rayon de soleil couchant pour faire des photos dans un champ. Puis, on s'est installé sur le décor, on a mis de la musique, fait un peu les neuneux pour me détendre, ça a bien marché. Mais aussi parce que je savais qu'Alix prend de super photos et qu'elle m'apprécie, j'ai tenté de m'asseoir et de m'allonger de 2000 façons différentes sur un canapé, puis la nuit est tombée petit à petit quand on prenait les photos. Au bout d'un moment, Alix a voulu basculer sur une ambiance un peu plus calme. Donc je me suis posée plus calmement, et là, j'entends une chanson que je ne connaissais pas d'un groupe que je connais et que j'aime grave. Et là, pendant que je prends ma baffe, Alix continue à tourner un peu autour de moi, s'exclamer que la lumière est ouf, et c'est de ce moment-là qu'est issue la photo que j'ai publiée. Enfin, on a mis de la musique plus calme, petit Otis Redding, petit Sam Cooke, et on est parti sur une autre ambiance. On a fait des tests chelous avec une guirlande électrique, puis c'était la fin, et on est reparti. Et deux jours plus tard, je suis allée chez Alix pour récupérer sa sélection. Il y avait 40 photos, toutes super, et il a fallu en choisir que quelques-unes. J'ai demandé à mon entourage, écouté mon instinct, et c'était fait. C'était donc le récit de mon premier shooting photo professionnel. Le récit d'une autre collaboration entre Alix Lepiane et moi-même, en espérant qu'il y en ait plein d'autres. Je vous laisse aller voir le résultat des photos sur mes réseaux sociaux. Maintenant, il s'appelle L'Empire, L-A-M-P-Y-R-E. Je suis sur Facebook et Instagram. Et bien sûr, je vous laisse aller faire un tour sur le site d'Alix. www.alixlepiane.fr, Lepiane avec deux N. Et pour cette fin d'émission, on retourne quelques minutes à la rivière. Comme j'avais dit dans l'épisode précédent, j'ai décidé en fait maintenant en fin d'émission de vous laisser avec un artiste qui m'inspire et qui fait partie de mes plus grandes influences. Donc la semaine dernière c'était Led Zeppelin, avec la grande influence de Robert Plant. J'espère que ça vous a fait kiffer, moi ça m'a fait kiffer quand j'ai fait le montage. Et là aujourd'hui je vais vous laisser avec quelqu'un que je pense qu'Alix aime bien aussi, je vais vous laisser avec Buddy Holly qui est décédé à l'âge de 22 ans mais qui en l'espace de 1 an et demi de carrière a pu révolutionner la musique. Et voilà, j'aime beaucoup parce qu'il y a une espèce de tendresse en fait qui sort de sa musique, une espèce de candeur qui me fait beaucoup de bien, je crois que j'écoute, et à la fois c'est très énergique sur certains morceaux et sur d'autres morceaux beaucoup plus doux. Voilà, je vous laisse avec du Buddy Holly.
Hold me close and tell me how you feel. Tell me love is real. Words of love you whisper soft and true. Darling, I love you. Let me hear you say the words I want to hear, darling, when you're near. Words of love you whisper soft and true.